Selon les Écritures. Selon les Écritures, le père Alain Marchadour, bibliste, dialogue avec Pierre-Yves Révillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission biblique selon les Écritures. Pierre-Yves Révillon au micro avec le père Alain Marchadour, bibliste. Bonjour père Alain.
Bonjour Pierre-Yves.
Dans la précédente émission, nous avions commencé à relire dans le livre de l'Exode les événements clés de la vocation de Moïse. Nous avions abordé sa première rencontre avec Yahvé sur la montagne de l'Horeb, dans le buisson ardent, où Dieu lui a révélé qu'il est le Dieu de ses pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Nous poursuivons le récit de cette rencontre fondatrice au chapitre 3, versets 7 à 12 dans la Bible de Jérusalem. Yahvé dit « J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses angoisses. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre vers une terre plantureuse et vaste, vers une terre qui ruisselle de lait et de miel, vers la demeure des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périsites, des Hivites et des Jébuséens. Maintenant le cri des Israélites est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que font peser sur eux les Égyptiens. Maintenant va, je t'envoie auprès de Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon et faire sortir d'Égypte les Israélites ?» Dieu lui dit, « Je serai avec toi, et voici le signe qui te montrera que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Dans ce passage extraordinaire, Yahvé révèle à Moïse qu'il est descendu pour délivrer son peuple et le faire monter vers une terre où ruisselle le lait et le miel. Quand et comment le narrateur du récit a-t-il pu être en mesure de rapporter cette promesse clé où s'origine toute l'histoire du salut, tant juif que chrétien ? Est-ce une simple narration ou une relecture a posteriori, père Alain ?
Oh, c'est certainement une relecture a posteriori. On se dit souvent la différence entre les révélations de Dieu à des humains ou à Israël, c'est que quand ce sont des humains, ça peut se passer en quelques heures. Dieu exige, je l'ai rencontré, ça a duré une demi-heure, d'après le récit. Et puis dans la Bible, selon les commentateurs, ça dure 6 ou 7 siècles. Ce chapitre-là, c'est un des plus denses, d'une certaine façon, on pourrait dire des plus lourds. Et on parle des vous avez pris comme traduction les Israélites, en hébreu, c'est les fils d'Israël, c'est-à-dire c'est les fils de celui qui s'appelait Jacob, qui descendent en Égypte, les fils de Jacob, les fils d'Israël descendirent en Égypte, et au verset 6, les fils d'Israël deviennent non plus les fils charnel de Jacob, mais deviennent les fils d'Israël, c'est-à-dire la nation d'Israël. Donc, vous avez là un saut extraordinaire. On est déjà face à la nation, mais bien sûr, c'est une relecture postérieure qui nous éclaire beaucoup et qui montre bien qu'il y a toute une épaisseur d'histoire, si vous voulez.
Alors, il y a cette prophétie qui évoque la terre promise, finalement. Mmh. Hein. Et ensuite, s'ensuit l'envoi en mission de Moïse auprès de Pharaon. Avec une feuille de route bien précise, hein, si on lit bien le texte. Mais quel était le statut de Moïse ? Est-ce qu'il était un simple envoyé, un prophète, le chef des Hébreux, un sauveur ?
Alors, ce qu'il était, ça nous est difficile de le dire encore une fois, puisque l'histoire ne nous donne pas accès à des documents, évidemment, qui seraient lisibles pour aujourd'hui. Mais ce qui nous éclaire par contre beaucoup, c'est le premier grand prophète. C'est-à-dire, c'est ça qui fait son identité, ce que sera un prophète avec son côté de vis-à-vis de Dieu, intermédiaire entre le peuple et Dieu. Très belle figure, magnifique, qui évoque évidemment tous les prophètes qui suivront. Ce sont des missions souvent douloureuses parce qu'il y a une solitude du prophète, et Moïse l'a vérifié dans sa vie, solitude à la fois face à Dieu et puis face au peuple, avec cette identité au fond d'être le partenaire de Dieu, défendant son peuple quand il est devant Dieu. Quand Dieu lui dit non, je vais te donner un autre peuple, celui-là ne marche pas. Et Dieu, Moïse lui dit non, tu peux pas, c'est ton peuple. Et en même temps, quand il est face au peuple, c'est Moïse qui dit au peuple, vous ne pouvez pas vous faire un faux Dieu, car Dieu c'est votre maître, c'est votre Seigneur. Donc c'est le prophète dans sa grandeur et dans sa solitude aussi. C'est ça qui fait la grandeur de Moïse. Et c'est pour ça que, quand je disais tout à l'heure, est-il plus grand qu'Abraham ? Je crois que tous les deux sont au sommet, au fond, de la révélation.
Alors, face à cet envoi en mission, qui est quand même une mission lourde, hein, on se demande ce qu'il va répondre, Moïse. Et là, Moïse, il dit simplement, et ça, on va lire directement le texte, hein, au verset 13 à 15 du chapitre 3, qui constitue d'ailleurs, on va bien le voir, un des sommets bibliques de la révélation. Hein, je prends ce texte. Moïse dit à Dieu, voici, je vais trouver les Israélites et je leur dis, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me disent, quel est ton nom? Que leur dirai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Et il dit, voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux Israélites, Yahvé, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est mon nom pour toujours. C'est ainsi que l'on m'invoquera de génération en génération. » La question de Moïse à Dieu sur son nom est étonnante, car il semblait pourtant le connaître. La réponse divine est encore plus surprenante et alimente les interrogations et les débats des exégètes et des linguistes depuis des siècles. Le nom original en hébreu est Eye Asher Eye, qui est traduit dans la Bible de Jérusalem par « Je suis celui qui est » et dans la Tob par « Je suis qui je serai ». Beaucoup d'autres traductions sont possibles, Père Alain. Qu'en pensez-vous ? Faut-il en privilégier une ?
Je crois qu'on n'a jamais autant perçu que maintenant la difficulté de traduire. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, j'aime bien citer ça de temps en temps, disait « Si j'avais été prêtre, j'aurais appris le grec et l'hébreu ». Elle avait compris que les langues originales disent toujours des nuances que les traductions ne peuvent pas rendre. En hébreu, vous avez cité, c'est « Erie Asher Erie ». C'est-à-dire, si on veut traduire littéralement, « je serai qui je serai ». C'est-à-dire, à la fois, et vous avez pris comme traduction la Bible de Jérusalem ou la Tob, qui dit « je suis qui je serai ». Alors, ça peut être, évidemment, un écart par rapport au texte original, mais je pense que ça dit bien le vrai sens du mot. C'est-à-dire, c'est Dieu qui dit « je suis et je serai ». C'est-à-dire, c'est Dieu qui à la fois se livre et en même temps se réserve. Il y a à la fois une vérité, il dit « je suis » et en même temps, il garde une retenue d'une certaine manière. C'est ça, au fond, qui fait la grandeur de Dieu. C'est un nom mystérieux, c'est un nom qui est imprononçable d'une certaine façon, mais qui dit beaucoup de choses, en particulier la présence. Dieu dit « je serai avec vous, je suis ». Vous voyez, les deux mots sont à peser. « Je suis » et « je serai ». C'est-à-dire, je ne suis jamais totalement dans votre regard tel que vous pouvez le porter, parce que je suis au-delà de votre regard, mais je suis qui je serai, c'est-à-dire Dieu est en avant. Dieu, il est là et il est en avant. Cette double vérité peut nous éclairer et je pense qu'elle garde sa valeur. C'est quelque chose de... C'est indicible, on pourrait dire. C'est imprononçable et les Hébreux ne le prononcent pas, justement, parce qu'ils pensent que c'est un mystère et il ne faut pas prononcer le nom de Dieu. C'est une manière de le violenter, d'une certaine façon.
Juste pour illustrer pour nos auditeurs, là, vous m'avez communiqué un document avec une petite liste de traductions possibles. Je suis celui qui suis, je suis celui qui est, je suis qui je suis, je suis qui je serai que qui je suis celui qui suis là.
Oui, ça confirme au fond que c'est très difficile de traduire. Peut-être ne faut-il pas trop chercher à traduire, c'est-à-dire Jésus lui-même va s'identifier à ce nom. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez que je suis. C'est-à-dire Jésus s'identifie au Père, c'est une audace extraordinaire. On le sait depuis la résurrection, il est le Fils de Dieu. Mais il reprend ce terme qui définissait le Dieu de l'Exode. Déjà, d'une certaine manière, on pourrait dire qu'il y a une espèce de pont qui va du Sinaï au Golgotha. Et c'est à la fois le même Dieu et en même temps celui qui s'épanouit dans sa vérité profonde, c'est-à-dire sa vérité trinitaire.
Mais vous qui êtes un grand bibliste et qui connaissez l'hébreu, est-ce que vous avez une préférence ?
Moi je préfère, c'est-à-dire pour répondre à votre question, il faut rappeler que la Bible grecque, la Septante, est une trouvaille géniale. Quand même le dire. Le fait d'avoir traduit la Bible de l'hébreu en grec, ça a été une audace extrême parce que les Alexandrins ne savaient plus l'hébreu. Et donc, quand ils vont traduire et qu'ils vont se heurter à cette phrase, ils auront les mêmes difficultés que nous alors qu'ils étaient des gens de génie. Et comment vont-ils traduire ? Je suis l'existant. Je suis l'être. C'est-à-dire, ils vont traduire avec le langage métaphysique d'Aristote ou de Platon. Je suis l'étant. L'être. Je pense qu'il faut mieux pour nous revenir à la dimension historique. Je suis qui je serai. C'est-à-dire, il faut garder cette dimension de route, en quelque sorte. C'est un Dieu pour la route. C'est un Dieu qui ne se retrouve pas dans les sanctuaires, qui ne se retrouve pas dans les lieux du passé. C'est un Dieu de l'histoire. Je suis qui je serai. C'est-à-dire, il y a un futur et peut-être si on revenait juste pour confirmer, est-ce que vous avez remarqué cette curieuse phrase que vous avez lue tout à l'heure? Quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. C'est-à-dire une façon de dire, vous ne pouvez savoir qui est Dieu que lorsque vous serez arrivé au bout de votre voyage et quand vous serez arrivé dans votre sanctuaire où vous aurez fini le voyage, c'est là que vous pourrez dire oui, c'est Dieu qui nous conduit. Dieu est toujours en avant.
Bon, je retiens que vous avez une préférence pour la traduction de la Tobe, alors, oui. Je suis qui je serai. Alors, on a épluché un petit peu toutes les possibilités de traduction, mais maintenant, qu'est-ce que ça signifie ? Que signifie ce nom qui est finalement très énigmatique et qui est centré sur l'être ? Que pouvaient en comprendre Moïse et ses contemporains, et puis aussi les narrateurs du récit finalement ? Est-ce que c'était une nouveauté théologique d'une définition centrée sur l'être ?
Oui, je ne suis pas sûr qu'elle soit centrée sur l'être, justement. Dans la formulation hébraïque, c'est la nouveauté, elle est dans la présence de Dieu à un peuple, pas à un individu comme Abraham tout seul, à un peuple dans son histoire. C'est-à-dire, c'est l'histoire du salut qui s'inscrit dans l'histoire. C'est-à-dire, Dieu est avec l'homme, mais il n'est jamais réductible au moment que nous vivons. Il est toujours en avant. Dieu nous projette en avant. C'est le Dieu du futur. C'est à la fois le Dieu du présent, mais surtout, peut-être faudrait dire, c'est le Dieu de l'histoire. C'est-à-dire, ça n'est plus le Dieu de la mythologie, ce n'est plus le Dieu du passé, c'est le Dieu dans l'histoire de l'homme. Et ça, évidemment, c'est confirmé pour nous par la venue de Jésus. Jésus vient de la part de son Père pour nous dire que Dieu est avec nous dans notre histoire. Et ça, c'est une sorte de développement de cette définition magnifique, je suis qui je serai, c'est-à-dire je suis présent, je suis avec vous, je suis là, mais en même temps, je suis en avant, c'est-à-dire vous ne pouvez jamais épuiser mon identité, elle est toujours projetée en avant et elle sera peut-être lumineuse à la fin des temps, au moment de la résurrection générale.
Alors justement, puisque vous êtes déjà presque à la parousie, comment ce nom divin, donc révélé à l'Horeb, tel qu'on vient de l'évoquer, a-t-il questionné les théologiens et les philosophes au fil des siècles, et en particulier les chrétiens, mais pas uniquement peut-être?
C'est vrai qu'on a beaucoup épilogué sur ces mots simples. Je suis. Beaucoup de traductions ont été proposées. Encore une fois, on le dit souvent, traduire, c'est toujours trahir. On ne peut pas traduire. Puis même, le texte hébreu est un peu difficile à cerner. Je suis avec un infini. Les temps hébreux ne sont pas tout à fait correspondants à nos temps. Donc, ça souligne quelque chose qui n'est pas révélé totalement, qui est en marche, qui est en route, et en même temps une présence. Dieu qui est là et qui est en avant, et qui est le Dieu de la route, le Dieu du voyage, le Dieu au fond de l'histoire. Et l'histoire, notre histoire est sainte parce que Dieu est présent dans notre histoire. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose de très riche, et qu'on n'aura jamais fini de commenter ou d'épuiser. Ce nom, il y avait les quatre lettres, le fameux tétragramme, quatre lettres simplement, imprononçables. On dit Yahvé, Adonai, on trouve des mots pour le dire, les Juifs ne veulent pas le prononcer, et c'est imprononçable pour eux, il faut trouver, ils disent le Saint, béni soit-il, enfin il y a plusieurs formulations, mais le nom imprononçable, c'est le mystère, c'est Dieu qui est, parce que dire et prendre la mesure de Dieu, ce serait au fond se mettre à la place de Dieu, et ça c'est pas possible.
Vous avez évoqué dans un document un certain nombre de qualificatifs, justement, à propos de cette réflexion sur le nom. Vous avez dit « Dieu est unique »,« Dieu est personnel »,« Dieu est présent »,« Dieu est le Dieu de la promesse »,« Le Dieu de l'écoute ». C'est quelques déclinaisons de...
Oui, c'est vrai, chaque mot pèse. On pourrait peut-être retenir le dernier, parce que quand on dit Dieu est de l'écoute, c'est le Dieu de l'obéissance, c'est le Dieu que l'on reconnaît et que l'on met dans sa vie, dans l'obéissance qu'on lui donne. C'est-à-dire, c'est pas nécessairement les savants qui sont les meilleurs pour comprendre le mystère de Dieu. Ce sont les gens simples, les gens qui se mettent à l'écoute de Dieu, au fond. Oui, c'est cette idée que Dieu est à la fois près de nous et en même temps toujours devant nous, un nom qui pour nous se décline avec Jésus. Jésus, c'est celui qui vient nous dire, au fond, la vérité sur Dieu. Et c'est là peut-être que nous faisons la rupture avec le peuple juif. Nous respectons beaucoup nos frères juifs, mais sur l'identité de Jésus, je me souviens quand j'étais en Israël, j'ai beaucoup été impressionné par beaucoup de témoins juifs qui me disaient leur fascination face à Jésus. Mais là où ils s'arrêtaient, c'était bien sûr dans son identité divine, qu'ils ne pouvaient pas accepter, mais peut-être qu'un jour il y aura un chemin qui nous permettra de nous retrouver entre eux et nous, même si aujourd'hui on a fait beaucoup de chemin ensemble et on a dépassé toutes nos querelles qui ont été douloureuses et malheureuses dans le passé, comme vous le savez. Et donc, on peut partager, on arrive à trouver des terrains communs, y compris sur le nom de Dieu, on arrive à dialoguer.
Jésus, c'est Dieu qui prend visage.
Voilà, exactement, c'est cette idée pour nous, un visage évidemment que nous rencontrons, nous, dans la prière, dans l'office, dans la messe surtout, puisque c'est là que sa présence se dévoile et se révèle, et c'est vraiment un aboutissement magnifique. Raison supplémentaire, je pense que vous en êtes conscient, on ne peut pas couper Jésus de l'Ancien Testament. Il est le fruit de tout ce qui s'est joué là, et en particulier tout ce qui s'est joué au Sinaï que nous venons d'évoquer.
On l'appelle des fois le nouveau Moïse.
Oui, enfin le nouveau Moïse, je ne sais pas si on le... Il est plus que Moïse, il est au-delà de Moïse, oui. Même s'il y a un conflit autour de Moïse. Il se fait plus grand que Moïse,
oui.
Mais c'est un autre registre.
Alors, nous sommes au terme de cette deuxième émission consacrée à la vocation de Moïse. Nous poursuivrons cette lecture dans la prochaine émission et là nous aborderons un autre épisode qui est très très important, qui est le don du décalogue. On va partir sur le mont Sinaï la prochaine fois. Merci à vous Père Alain Marchadour pour nous avoir fait partager vos connaissances et votre passion pour ce texte. Merci à Christophe Aubry qui assurait la réalisation. Nous voici au terme de la rediffusion de ce numéro de l'émission biblique selon les Écritures, avec le père Alain Marchadour, bibliste, qui nous a quittés le 3 mai dernier. Pour lui rendre hommage, Présence rediffuse l'intégrale des 44 émissions de 20 minutes du 29 juin au 4 septembre 2026, du lundi au vendredi. Rendez-vous donc au prochain numéro de Selon les Écritures. Chaque émission peut aussi être réécoutée à tout moment en podcast sur le site web radioprésence.com. Au revoir et à très bientôt sur les antennes de Présence.